Radio Kapi.
Les informations, Belinda Bosuma. Après le récent naufrage dans le lac Kivu qui a coûté la vie à plusieurs personnes, on observe un respect progressif des mesures prises par les autorités nationales. Cependant, l'interdiction de naviguer la nuit n'enchante pas certains acteurs locaux. La ville de Bukavu accueille dès ce mercredi la 7e édition du festival culturel version humoristique. Des artistes internationaux et nationaux viennent des différents horizons pour agrémenter cette activité culturelle qui va durer 5 jours. Et puis, l'invité de ce matin, Joël Nguissalé, inspecteur à la Direction générale des impôts de la province orientale démembrée. Il parle de l'importance de la réforme normalisée dans les opérations de vente des marchandises par les opérateurs économiques. À tous et à toutes, bonjour. Commençons par le Nord Kivu. Une dizaine de jours après le naufrage dans le lac Kivu, drame qui a coûté la vie à plusieurs personnes, on observe un respect progressif des mesures prises par les autorités nationales. C'est notamment l'interdiction de naviguer la nuit, le port strict des gilets de sauvetage, mais aussi le contrôle de la part des services étatiques. Cependant, la mesure sur la navigation la nuit suscite des réactions des acteurs locaux. Nombreux pensent que cette mesure n'a pas pris en compte certaines réalité locale. Sifa Maguru nous en parle.
Depuis l'entrée en vigueur de cette mesure, il s'observe une diminution sensible de la fréquence des voyages sur le lac Kivu, affirment les armateurs. Un autre grand problème concerne les habitants des villages riverains du lac Kivu. Ce dernier constitue au moins 70% des utilisateurs du lac pour des échanges commerciaux et qui n'auront plus accès aux bateaux d'après nos sources. Les conditions de navigation la nuit sont plus avantageuses pour faire des escales et manœuvres plus que la journée car le lac est trop souvent agité. Cela handicape déjà plusieurs activités et échanges commerciaux entre Goma et Bukavu ainsi qu'une dizaine de villages et ports riverains du lac en territoire de Kalehe et Didjui. Des centaines d'habitants qui accèdent aux bateaux depuis les villages, notamment Bugarula, Karulo, Chikoma, Monvu, Kachovu, Ishungu, Birava, Mukwija et bien d'autres dans Kalehe sont ainsi pénalisés et seront contraints de recourir aux pirogues motorisées, ce qui représente encore plus des risques de naufrage. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Pendant ce temps, à Bunia, en Ituri, près de 80 opérateurs économiques ont assisté hier à un atelier de formation sur la mise en ligne des factures clients organisé par la direction du Centre d'impôts synthétiques de Bunia. Cet événement vise à moderniser la comptabilité des entreprises et à optimiser le recouvrement des impôts. Les participants ont également appris à établir une comptabilité conforme aux standards modernes dans le but de lutter contre le trafic des factures et de maximiser les recettes fiscales. Explication Jean-Claude Loki.
Cette sensibilisation fait partie d'une réforme de la facture normalisée destinée à améliorer la comptabilité des entreprises tout en sécurisant les revenus des opérateurs économiques et en réduisant le risque de vol lié à la surfacturation, mettant ainsi fin aux pratiques mafieuses. Joël Nguissel est inspecteur provincial des finances.
Ça va aider le gouvernement congolais d'abord à maximiser les recettes parce qu'il n'y aura plus de pression de recettes, on ne va plus manipuler à la main les factures comme on veut, changer, modifier, tout ça. Vous voyez, on ne va plus dénaturer la qualité des marchandises ou la valeur comme on pouvait le faire par le passé. Donc, c'est une façon d'améliorer le climat des affaires et remettre le climat de confiance entre l'administration fiscale et les contribuables.
Yannick Assim, comptable d'une entreprise locale, applaudit cette initiative, affirmant que cette digitalisation des opérations de vente profitera à toutes les parties concernées, y compris l'État, les entreprises et les clients.
Il suffit seulement que l'opérateur passe une écriture à travers les dispositifs mis à la disposition de l'opérateur par la DGI, et la DGI possède les mêmes informations, et les clients à son tour aussi aura la pièce justificative, la facture qui est moderne, une facture qui est normalisée.
Cette démarche vise également à aligner les secteurs sur les standards internationaux où la majorité des transactions sont informatisées.
Bunia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Dans le Maniema, au deuxième jour hier de la conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures, beaucoup d'investisseurs manifestent leur intérêt de répondre favorablement à l'appel du gouverneur de province. La Chambre de commerce y participe avec une forte délégation pour avoir un maximum d'informations concernant les besoins de la province dans les domaines des infrastructures et de l'énergie notamment. On écoute à ce sujet Floribert Engwa, directeur des affaires congolaises et administrateur chef des missions de la Chambre de commerce à l'international. Il est au micro de Florence Kizalunga.
L'objectif de cette forte délégation, c'est de répondre d'abord à l'invitation de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui nous a officiellement invités. Nous voulons écouter quels sont les besoins au niveau de la province en matière des infrastructures, l'énergie et aussi des mines. Et nous sommes intéressés par les mines, n'est-ce pas, de la province de Maniema. De toutes les façons, nous sommes des opérateurs économiques, des hommes d'affaires et des investisseurs. Et j'ai dit bien, ce sont des investisseurs très sérieux. Le gouverneur, ça dépend effectivement de ses relations avec le gouvernement central. Il peut, n'est-ce pas, obtenir une enveloppe par rapport à ses besoins d'investissement dans la province de Maniema. En fait, il y a pas mal de potentialités, je dirais, au niveau d'abord de l'environnement et ce qui répond directement à nos besoins dans le cadre énergétique. Donc nous avons des grands investisseurs qui sont prêts à investir dans l'énergie, dans l'électricité. Nous avons vu un besoin énorme au niveau des infrastructures routières, mais nous avons aussi besoin de minerais, donc investissement contre ressources minérales. Et nous avons entendu et appris qu'il y a aussi de l'or ici, ce qui intéresse certains de nos partenaires.
Et puis, renforcer les organisations de la société civile en matière de redevabilité financière, c'est l'objectif de la télé de vulgarisation de 10 jours qui se poursuit ce mercredi dans la ville de Kalemi et qui réunit une cinquantaine de participants. Il s'agit de la vulgarisation de l'acte uniforme de l'OADA relatif au système comptable des entités à but non lucratif. L'atelier est organisé par l'ONG Atari sous le financement de l'Union européenne. L'un des participants, Ludovic Kasongo, explique ici ce qu'il retient de cette formation. Il est au micro de Paulin Munanga.
Les organisations de la société civile du Tanganyika sont en train d'apprendre à se servir des outils de proximité mis à leur disposition par le microprojet pour la tenue de leur comptabilité suivant la nouvelle norme de l'OADA. Les organisations de la société civile du Tanganyika savent déjà désormais qu'elles ne peuvent plus gérer leurs activités comme par le passé. Depuis le 1er janvier 2024, un nouveau système comptable unique est d'usage obligatoire par les OEC. Et ça va faciliter à toutes les organisations qui avaient un problème de présenter leur bilan. Quand on vous demande par une agence des Nations Unies, par une organisation de l'Union européenne, les gens qui aiment la traçabilité, voir comment vous gérez les fonds qu'on vous a alloués, et la plupart c'était des chaos. Et avec cet outil, et c'est tout le monde qui est satisfait, et le système comptable qu'on est en train d'enseigner, c'est un système comptable formidable.
Autre nouvelle, ici à Kinshasa, un incendie a consumé plusieurs bus de la société de transport du Congo, Transco. C'était hier après-midi, précisément dans ses entrepôts à Massina Siforco, son siège administratif. Il n'y a pas eu mort d'homme. Son directeur général affirme qu'il s'agit en majorité des anciens bus Volvo déjà déclassés. La cause de ce brasier serait d'après lui un accident lors du dépiècement des épaves de bus destinés à la vente. Suivez ces précisions du DG de Transco, Cyprien Béré. Propos recueillis par Arcel Kajourou.
L'établissement public Transco a obtenu les autorisations requises du ministère des ITPR et de sa tutelle pour évacuer certains bus. Et la législation interdit qu'un bus soit vendu en entier. Il doit être vendu dépiécé, pour ne pas dire coupé. L'opération de vente a commencé timidement. C'est pourquoi aujourd'hui, un acheteur de bonne foi venait couper un ou deux bus qu'il a acheté, comme j'ai dit tantôt. Je présume, les enquêtes peuvent nous dire plus, mais à première vue, il s'agit d'un défaut de prévoyance de celui qui coupait. C'est pas, on appelle ça accident. Je veux dire que ça arrive sans la volonté de l'homme. Il s'agit purement et simplement d'un accident. Il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu brûlure, je n'ai pas dit incendie de bus neuf. 95%, pour ne pas dire tous les bus qui ont pris feu, étaient déjà des bus réservés pour l'évacuation.
Notez que la vice-ministre de l'Intérieur, qui se trouvait dans la partie est de Kinshasa, a pu se rendre sur le lieu du drame. Le feu a été maîtrisé grâce à l'intervention des pompiers. Un autre incendie a aussi été enregistré ce même mardi à la 7e rue Limité, au restaurant bistrot situé au-dessus de Kinmarché, à la place commerciale. On ne compte pas de morts, mais d'importants dégâts matériels, a précisé la bourgmestre de Limité. La police dépêchée sur place a pu dissuader toute tentative de pillage. Je vous le disais en titre, lancement ce mercredi à Bukavu de la 7e édition du Festival culturel version humoristique. Des artistes internationaux et nationaux viennent des différents horizons pour agrémenter cette activité culturelle qui va durer 5 jours. Plusieurs sociétés privées de la place ainsi que des services étatiques ont scellé leur partenariat avec la direction du festival intitulé Zéro polémique. Jean Kassami pour le reportage.
Le coup d'envoi est attendu ce mercredi au terrain du Collège Al-Fajiri à Bukavu. Les artistes et comédiens internationaux, nationaux et locaux commencent à marquer leur présence dans la ville. Le directeur du festival, Joye Bin Kabodjo, place l'activité sous le signe de vente d'une image positive de la ville de Bukavu.
À travers un festival comme le festival Zéro Polémique, aujourd'hui vitrine des talents de la ville de Bukavu, les artistes internationaux en venant ici à Bukavu s'est constitué un ambassadeur de la ville et partout ils vont, ils témoignent de cette ville, une ville intéressante, une ville avec les rires, la vie et la joie. Et tout cela aussi à travers les diffusions que le festival fait, les gens peuvent se faire une image d'une ville habitable au lieu d'une image d'une ville de guerre.
L'humoriste tunisienne Samia Oroseman se porte garant de vulgariser à travers le monde entier l'image combien époustouflante de la ville de Bukavu.
Nous les artistes, nous sommes des ambassadeurs de tous ces magnifiques endroits que personne ne connaît, dont on n'entend pas parler et dont on ne connaît que les aspects négatifs en fait. Moi je suis allée à Venise, Venise n'est rien face à Bukavu.
La coopération suisse et Canal Plus se compte parmi les partenaires de taille. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, des personnes malvoyantes demandent au gouvernement de leur faciliter l'inclusion sociale à travers le pays. Requête formulée lors de la célébration hier 15 octobre de la Journée internationale de la canne blanche. Cette requête est appuyée par la ministre en charge des personnes vivant avec handicap qui estime que cette catégorie de personnes peut contribuer à l'avancement de la société. Des détails avec Blaise Ndongala Maenda.
Au cours de cette journée, des personnes malvoyantes ont affirmé être confrontées à plusieurs difficultés dans leur vie quotidienne, dont l'accès à la scolarité et à l'emploi. Le directeur général de l'Institut national pour aveugles a demandé au gouvernement de ne pas laisser de côté des personnes en situation d'handicap visuel. Jean-Jacques Mwana Fumwenji.
La perception doit changer. La personne en situation de handicap visuel est un citoyen qui a droit à participer à la reconstruction de son pays. Comme on dit à travers les ODD, elle ne doit pas être laissée de côté.
Il a également recommandé au gouvernement de réhabiliter l'INAS et de construire d'autres écoles et centres de formation pour personnes malvoyantes à travers les pays. Pour sa part, la ministre en charge des personnes vivant avec handicap a promis de porter la voix de ses interlocuteurs au niveau du gouvernement. Irène Essambo est convaincue que l'État a intérêt à investir dans les personnes malvoyantes.
De plus en plus, nous comprenons et nous voyons que les personnes avec les malvoyantes sont utiles, ont des potentialités, ont des capacités et que la société doit compter avec ces personnes. Et elles peuvent apporter quelque chose.
Au niveau national, cette journée a été placée sous le thème « Tous pour la promotion et l'inclusion des personnes aveugles ».
Le département d'État des États-Unis d'Amérique a remis hier à l'inspection générale de la police nationale congolaise du matériel informatique pour lui permettre d'accomplir ses missions de contrôle, d'audit, d'évaluation et d'enquête au sein de la police. Une dotation qui constitue un apport très capital à l'IGPNC, notamment pour les services d'investigation encore dans le besoin de la logistique pour contrer toute bavure dans toutes les unités de la police, souligne le commandant commission divisionnaire principale Patience Mouchid Yav. Des détails avec Billy Van Lutumba.
C'est à travers l'ONG suisse Congita NL que l'IGPNC a réceptionné ce matériel juste après le réaménagement des bureaux ainsi que l'achat de 4 jeeps neuves des fonds reçus du gouvernement. Fabien Barthez, chef du projet Congita, donne quelques détails sur le matériel remis.
Nous avons remis 32 ordinateurs, 16 tablettes Android, donc des outils qui seront pratiques pour aller sur le terrain, faire des photographies, des auditions. 5 serveurs équipés de logiciels spécialisés. Nous avons remis 7 imprimantes.
Pour un matériel informatique, indique le commissaire divisionnaire principal, Patience Mouchidiav, arrive à point nommé pour le service d'investigation qui est appelé à descendre aussi sur terrain.
Ces appuis viennent résoudre les difficultés que nous avions en termes de matériel informatique aux lignes de nos directions phares, la direction des investigations. L'inspection générale de la police, dans sa phase de campagne de vulgarisation de ses missions, salue également l'accompagnement des Congita. Le déplacement des inspecteurs dans des provinces, la formation et autres plusieurs appuis que vous-même vous avez déjà oubliés.
Signalons que depuis février 2024, l'IGPNC est lancé dans une vaste campagne de vulgarisation des missions de son inspection pour faire promouvoir les droits humains dans le travail de la police à travers le pays. Pour ce faire, ainsi c'est le commandant de l'IGPNC, le besoin en moyen de locomotion demeure important.
Actualité internationale. Au Nigeria, les autorités de l'État de Kogi lancent un appel à l'aide alors que des inondations dévastatrices ont submergé plus de 200 communautés et déplacé plus de 2 millions de résidents dans l'État. Le commissaire à l'information et à la communication de l'État nigérian décrit la situation comme une crise humanitaire imminente et exhorte le gouvernement fédéral et les organismes donateurs internationaux à réagir rapidement pour atténuer les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes touchées.
L'invité.
Il s'agit de Joël Nguissalé, inspecteur à la Direction générale des impôts de la province orientale démembrée à Kisangani. Il part de l'importance de la réforme normalisée dans les opérations de vente des marchandises par les opérateurs économiques. Joël Nguissalé est avec Jean-Claude Loki.
Inspecteur Joël Nguissalé, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Pourquoi sensibiliser les assujettis aux impôts sur la réforme de la facture normalisée ?
La facture normalisée n'est qu'une étape d'une réforme qui a commencé il y a très longtemps avec des lois et des textes réglementaires qui accompagnent cette réforme qui a traversé plusieurs étapes, entre autres la réforme de la procédure et aussi la réforme des règles de fonds, c'est-à-dire les différentes natures d'impôts, avec la suppression de l'ICA, l'avènement de la TVA. Parce que l'ICA, c'est un impôt qui avait un caractère spoliateur, qui prenait plus de taxes et d'impôts au même moment, sur la même matière, plusieurs fois. Voilà pourquoi on a voulu corriger cette erreur en mettant fin à l'ICA pour instaurer la TVA, qui est une taxe sur la valeur ajoutée, qui ne concerne que le consommateur final qui supporte en définitive, qui n'est pas une charge sur les commerçants vendeurs. Cette réforme, la fiscalité congolaise, a évolué pour que ça se manifeste beaucoup plus clairement. Il y a des outils nécessaires, entre autres, la facture normalisée.
Puisque vous en parlez, justement, dispositifs électroniques fiscaux, de quoi s'agit-il exactement? Comment ça va se passer? Parce que vous savez, notre milieu, Bounia n'est pas l'Ituri, il y a aussi des milieux ruraux. Dans ces coins-là, reculés du l'Ituri, ça va se passer comment? D'abord, commençons par là. C'est quoi le DEF?
Par définition, les dispositifs électroniques fiscaux, c'est un mécanisme qui permettra désormais à tout commerçant, vendeur des biens ou des services, de produire une facture sécurisée, une facture normalisée. C'est en même temps aussi une facture qui ont des données stables, sûres et fiables. Et ces données sont partagées en temps réel entre les contribuables et l'administration fiscale. Donc, ça demande une connexion pour certains et d'autres aussi pas. Donc, là où il n'y a pas la connexion, on utilise des dispositifs physique qui n'a pas forcément besoin d'une connexion Internet, mais qui permet une facture sécurisée.
Est-ce que vous pensez que tout le monde a le même niveau d'études pour comprendre le fonctionnement de cette nouvelle technologie?
Je connais les opérateurs, ils savent compter l'argent. Tout sont dans les téléphones, sans pour autant faire une académie pour utiliser les téléphones. Donc je crois que c'est un dispositif très facile à manipuler, qui ne va même pas demander une formation spécifique et appropriée ou nucléaire pour qu'on l'applique.
Quels sont les avantages de ce DEF?
Il faut faire un distinguo entre l'avantage des dispositifs électroniques de facturation
et la normalisation
de la DG. Non, c'est la normalisation en fait. Les dispositifs éloignés des factures fiscales, c'est ça la facture normalisée. Alors, l'avantage pour la DGI, c'est que nous aurons des données en temps réel. Ça, c'est un.
De deux, de données fiables. Vous savez, le système efficace est déclaratif, donc chacun peut mettre les chiffres qu'il veut. Mais là, on est en face des données qui sont fiables, transmises à temps réel. Et il n'y aura plus de discussion sur le chiffre d'affaires entre la DGI et les contribuables. Parce que nous avons tous les mêmes données. On n'aura plus besoin d'aller faire des contrôles intempestifs pour tracasser les contribuables. Parce qu'on aura déjà les données avec nous. Voilà. Alors, maintenant, de l'autre côté, pour les contribuables, d'abord pour lui-même, ça va l'aider d'abord à avoir une comptabilité saine, correcte, juste. Parce que le dispositif fait directement un total automatique des biens, des objets vendus, des services vendus pour une période, avec précision. Ça peut faire un récapitulatif de tous ceux qui ont acheté en quantité comme en valeur. Soit pour une journée, soit pour un mois, il peut faire sa comptabilité de manière claire. Et puis ça va les aider à sorte que les vendeurs ne puissent plus aussi voler leur patron, parce que toutes les informations seront enregistrées. Il n'y a pas moyen de les supprimer.
Est-ce que vous pensez que tout le monde va adhérer à cette nouvelle
vision? Mais déjà, vous avez vu avec moi ici comment les contribuables sont très contents de ces dispositifs électroniques de facturation, parce qu'ils ont vu les avantages. Et nous sommes en train d'ailleurs de le faire à votre présence. Ils sont très contents et ils souhaitent même qu'on l'applique le plus tôt possible.
Et ça sera quand justement la dernière question?
Nous sommes dans une phase d'abord de sensibilisation et de formation pour les cadres d'agents de la DGI, aussi pour les contribuables. Et la deuxième phase, ce sera une phase expérimentale où on va sélectionner un groupe de contribuables qu'on va soumettre à cette phase test et qui vont commencer à donner des rapports sur les difficultés rencontrées. Et avec le temps, ça va permettre aussi à notre administration d'améliorer la plateforme. Et sûrement, dans un temps très proche, on va maintenant généraliser officiellement l'application ou l'utilisation des dispositifs électroniques de facturation.
Joël Nguissalé, merci.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.